RFI et France 24 présentent
Mardi politique.
C'est l'heure de politique sur France 24 et RFI. Bonsoir Frédéric Rivière.
Bonsoir.
Nous recevons ensemble Christian Estrosi. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, il y a quelque temps, vous avez dit ne pas être filloniste. Dans le livre « Il faut tout changer » aux éditions Albin Michel, où vous vous entretenez avec le journaliste Maurice Safran, vous dites « rester sarkozyste ». Alors, comment dire à la fois qu'il faut tout changer et rester fidèle à un homme politique dont les Français ne veulent plus? Vous nous expliquerez votre petite contradiction. Vous avez été aussi l'un des premiers, avant que l'affaire Fillon n'éclate, à réclamer un programme plus social, moins brutal. Mais en attendant, ce ne sont pas les propositions du candidat que l'on entend, c'est surtout le bruit des casseroles et la voix de certains parlementaires qui se cabrent. Ce matin, en réunion, François Fillon vous a dit, en clair, vous n'avez pas...
À moi, rien, je n'y étais pas.
Oui, vous n'y étiez pas, bon, mais à vos collègues, effectivement, vous n'avez pas d'alternative à ma candidature. Alors, on va vous poser la question, est-ce que vous considérez qu'actuellement, l'ancien Premier ministre fait une campagne normale, qu'il est en capacité de le faire? Il avait demandé 15 jours pour convaincre, en quelque sorte. Quelle est votre conclusion au bout de ces 15 jours? Est-ce qu'il fait une campagne normale?
Non, mais si vous me demandez si François Fillon fait une campagne normale, je vous dirais non.
Mais, oui.
Mais est-il en mesure de le faire? Est-ce que le climat politique que nous connaissons dans notre pays, qui me rend quelque part malheureux, permet à un candidat, même aux autres candidats, puisque désormais la question qui est posée à tous les candidats dans une situation inédite, jamais sous la Ve République, on a vu un président sortant ne pas se représenter faute de résultats et un niveau de popularité aussi faible. Jamais on a vu un ancien président de la République éliminé dès le premier tour d'une élection primaire qui ne lui permet pas de concourir. Jamais on a vu dans la primaire de gauche le premier ministre qui apparaît comme le leader éliminé lui aussi de...
Mais tout ça, c'était plutôt des nouvelles favorables à François Fillon.
On voit bien que nous sommes dans un climat où notre victoire était ou apparaissait inéluctable, parce que je crois qu'une majorité de Français veulent une alternance. Ils veulent une alternance qui vient de notre famille politique. C'est dans notre famille politique qu'ils espéraient, et sans doute qu'une grande partie d'entre eux espèrent encore. Et puis, voilà que nous sommes dans cette cascade d'informations reliées
par les médias. Avec une nouvelle aujourd'hui, d'ailleurs.
Avec la part de ce qu'il peut y avoir de juste ou d'injuste, d'ailleurs, parce que nous savons bien souvent qu'on se rend compte des mois plus tard qu'il y avait une immense part d'injustice. Mais les choses sont ainsi.
Ouais.
Et malheureusement, le débat démocratique que nous voulions avoir sur un vrai projet pour donner une nouvelle espérance à notre pays... Nous ne l'avons pas aujourd'hui.
Alors, avant de donner la parole à Frédéric, effectivement, on vient de l'apprendre à l'instant, le Canard Enchaîné sort une nouvelle affaire, mais non pas sur François Fillon cette fois, mais sur très proche, sur son porte-parole, qui aurait eu des problèmes avec le fisc et suspicion de fraude fiscale sur le revenu 2010 et 2013. Alors, on n'en sait pas plus, ça va être difficile pour vous de commenter, mais bon, est-ce que comme ça, vu d'avion, vous dites, c'est encore une casserole de plus à trimballer pendant la campagne?
J'en vois tous les jours. Je vois Mme Le Pen qui était
Dans votre
hier
camp.
Dans ma propre ville. Écoutez, dans mon camp, je le vois. On peut dire.
Thierry Solaire, c'est celui qui a organisé les primaires.
Écoutez, sincèrement, épargnez-moi de me demander de commenter une dépêche en direct sur votre plateau où je n'ai rien compris. Je ne sais pas de quoi il s'agit.
C'est vrai que
je saurai plus demain en lisant le Canard Enchaîné.
Et si vous en avez plus compris que moi à la lecture de cette dépêche, décryptez-la moi, parce que sincèrement, ce serait malvenu de ma part
Il y a un climat,
de faire un commentaire. Oui. On voit que tout ça entretient un climat du tous pourri, et ce tous pourri, ça profite à qui? À ceux qui sans doute sont le plus pourris, à savoir le Front National.
Oui. Alors Christian Estrosi, vous disiez, avant qu'on fasse cet aparté sur Thierry Solaire, c'est vrai qu'on ne sait pas grand-chose de la
Oui, mais bon. Voilà.
Vous disiez, finalement, aujourd'hui, nous sommes privés du débat démocratique qu'on aurait aimé avoir. C'est une déploration dans votre bouche. À qui faut-il en faire le reproche?
Bon, d'abord, vous avez raison, ce mot déploration qui est un beau mot du vocabulaire français, oui. Et qui est intéressant. Ça fait déjà de nombreux mois que je l'ai ressenti. Vous savez, ce qui m'a amené à avoir cet entretien avec Maurice Zafran, publié par Albin Michel et qui est sorti le 9 février.
On en parlera.
J'ai remis ce manuscrit fin octobre à Albin Michel. Je n'imaginais pas qu'en sortant le 9 février, ça sortirait dans ce climat. Mais au fond, je disais tout sur les conséquences d'une démocratie qui, depuis 20 ans, se renie, est incapable de se réformer, est enfermée dans des conservatismes de gauche comme de droite, qui nous conduisait inéluctablement à la situation que nous connaissons aujourd'hui. Voilà pourquoi ce qui m'intéresse plus, c'est d'apporter une contribution à mon parti qui nous projette dans l'avenir à des changements profonds dont nous avons besoin, que de commenter une actualité qui aujourd'hui...
Enfin, vous êtes membre du Parti des Républicains, vous avez été ministre.
Malheureusement, il faut
appartenir... Et aujourd'hui, vous constatez, vous l'avez dit...
Est-ce que vous me voyez appartenir au Front de Gauche?
Non, mais bien entendu...
Est-ce que vous me voyez appartenir au Front National?
Christian Strozzi,
vous savez que tout cela, je les ai toujours combattus,
toujours. Vous avez reconnu, vous avez dit, en effet, François Fillon ne fait pas une campagne normale, parce qu'il ne peut pas la faire. Et vous avez déploré, donc... que ce débat démocratique n'ait pas lieu. La question que je vous pose, c'est à qui faut-il en faire le reproche? Est-ce que, je vais la préciser la question au fond, est-ce que c'est à François Fillon lui-même qui s'est mis dans des conditions qui lui rendent cette campagne impossible? Est-ce que c'est à la presse, que François Fillon accuse parfois, qui en ferait trop autour de cette affaire? Est-ce que c'est aux officines, pour reprendre le langage employé par certains de vos amis? À qui en faites-vous le reproche?
La presse fait son boulot, j'accuse personne. Simplement lorsque je propose dans les solutions d'avenir qu'il y ait une vraie séparation des pouvoirs entre le judiciaire et le politique, que le judiciaire ne se mêle pas de politique dans n'importe quelle condition et sur n'importe quel calendrier.
Oui, donc vous faites partie de ceux qui
tout
pensent
comme
que...
le politique arrête de tirer à boulet rouge quelquefois sur les magistrats, ce qui crée forcément des troubles profonds de part et d'autre dans notre pays. Ça fait partie des réformes dont nous avons besoin. Je propose d'ailleurs que les juges qui sortent de l'école de la magistrature soient élus lorsqu'ils exercent une haute responsabilité et ne se la voient pas distribuer n'importe comment par le pouvoir en place.
Alors justement, Christian Estrosi, sur ce que vous venez de dire, c'est important parce que les avocats de François Fillon contestent donc la compétence du parquet national financier. Certains pensent que, comme vous venez de le dire, la justice ne doit pas s'aventurer sur le terrain de la politique au nom de la séparation des pouvoirs. En clair, la justice... doit-elle opérer tout de suite? Vous dites non, mais en revanche, qui doit être le juge de paix? C'est le suffrage universel qui juger François Fillon.
Mais pour nous tous, nous avons besoin, à partir du moment où quelques semaines à peine avant une échéance présidentielle, on commence à lâcher comme ça des informations dont personne ne peut dire aujourd'hui qu'elles sont légitimes ou illégitimes, qu'elles sont justes ou injustes.
Donc, faudrait attendre la fin de la période électorale.
Soit on accélère les choses pour dire, on tranche. Il y a un vrai problème, il est légitime et on prend les décisions qu'il faut. On considère que simplement nous sommes dans un cadre qui ne méritait pas d'en arriver là, parce qu'il y avait une légitimité à ce que François Fillon ait un certain nombre d'activités. Qui ont été révélés par la presse, que certains connaissaient et que d'autres ne connaissaient pas. Moi, je ne sais pas. Je ne veux pas me prononcer là-dessus, puisque, un, je ne suis pas François Fillon lui-même.
Non,
deux,
ça,
je ne fais pas partie de son équipe rapprochée. Trois,
non, mais c'est pas ce qu'on vous demande, au fond. C'est de réfléchir maintenant aux conséquences et à ce que ça suppose pour la suite, compte tenu de cette situation, qui est une situation de quasi-empêchement, tout de même, aujourd'hui, pour François Fillon.
Ah, écoutez, pour l'instant,
il est empêché de faire sa campagne,
Je vois que...
Il fait pas une campagne normale, vous l'avez dit.
La Russie d'envoyer des messages assez désagréables à l'égard de M. Macron. Il y a ceux qui sont adressés à l'égard de François Fillon. Il y a les soupçons du journal du soir que vous venez de rappeler à l'égard d'un autre, et je pense que dans les 2 mois de campagne qui restent, nous ne sommes à l'abri de rien. Donc je pense que dans les jours qui viennent, on y verra plus clair dans tout cela. Si moi, ce soir, sur votre plateau, j'étais un élément et un facteur de division de plus à l'intérieur de tout cela, je pense que si une solution doit émerger, ou si François Fillon doit pouvoir... de nouveau pouvoir développer sa campagne, parce que il serait temps qu'on lui permette aussi peut-être de défendre les arguments que nous souhaitons voir mise en œuvre pour réformer notre pays, il faudra bien qu'il y ait dans notre famille politique des éléments qui soient des facteurs de rassemblement. Je ne veux pas être un facteur de division. Je serai, après avoir dit que je n'étais pas filloniste, que j'avais des désaccords avec lui au plan social.
On va en parler de ça, oui.
Des désaccords avec lui sur le message adressé aux classes moyennes, des désaccords avec lui sur l'augmentation de la TVA, des désaccords avec lui sur la manière de réduire la fonction publique d'État comme la fonction publique territoriale. En même temps, je vois que ce sont des éléments qui, petit à petit, sont pris en compte. Moi, ce qui m'a... Vous savez, j'ai quitté le Parlement. Mais c'est important. Au moment où on dit, regardez, ils courent tous après des places, des titres, etc. J'ai fait le choix de quitter l'Assemblée nationale au mois de mai dernier. Ça prouve au moins une chose, c'est que je ne suis pas attaché à ces ors de la République dont on dit qu'ils procurent tant et tant d'avantages. J'ai voulu me consacrer à l'intérieur de cette grande nation que j'aime, qui s'appelle la France, à mon petit pays de 5 millions d'habitants, y consacrer mon énergie, lui apporter des solutions innovantes pour doper son industrie, sa production, sa politique d'innovation, créer des emplois.
On parle sans arrêt de devoir, enfin certains disent qu'il va falloir débrancher Fillon, mais là c'est vous qu'il faut débrancher parce qu'on ne peut plus vous arrêter.
Je voudrais quand même qu'on écoute une dernière fois, parce que c'est vrai que tout tourne autour de l'affaire Fillon aujourd'hui, et même Jean-Christophe Cambadélis, le patron du Parti Socialiste, en a ras-le-bol. Et c'est vrai, vous avez raison, on ne peut pas parler des vrais sujet. Donc on écoute quand même ce que disait Jean-Christophe Cambadélis et on en reparle.
Le feuilleton Fillon, moi je dis, ça suffit. Il y a une présidentielle. Aujourd'hui, il y a des débats extrêmement importants. Et pendant ce temps-là, tranquillement, tout doucement, dans le silence le plus absolu, le Front National progresse. Personne ne peut installer un vrai débat. Donc il faut lever l'hypothèque Fillon. Il reste ou il s'en va, mais ça ne dure pas.
Voilà, il fait le même constat que vous.
Exactement.
Mais quand il dit on lève l'hypothèque Fillon, comment on fait ? Est-ce que vous avez une solution ?
Oui, on lève l'hypothèque Fillon et il dit il reste ou il s'en va. Voilà.
Oui, bah bon. Voilà. Et vous
dites il reste ?
Il reste ?
Moi, je ne dis ni l'un ni l'autre. Je dis rentrons dans le débat des présidentielles.
Mais vous voyez bien qu'on n'y arrive
c'est
pas.
C'est qu'il ne peut pas. Strozzi, quand il dit François Fillon, c'est moi le chaos, parce qu'au fond, c'est ce qu'il dit. Est-ce que ça n'est pas d'abord présomptueux, peut-être, et d'autre part erroné. Est-ce qu'il n'y a pas, aujourd'hui, chez vous, dans votre famille politique, quelqu'un qui pourrait reprendre le flambeau, conduire une campagne présidentielle et peut-être aller jusqu'à la victoire ?
Nous sommes sans doute la formation politique qui a le plus de personnalités, qui ont de l'expérience, qui ont exercé des missions gouvernementales, qui sont des hommes et des femmes d'État. Je pense qu'en plus de cela, derrière notre projet, derrière celui qui pourrait l'emporter au présidentiel, nous sommes les seuls à pouvoir apporter une alternance de gouvernement avec une expérience derrière nous qui garantirait les réformes dont notre pays a besoin. Bon, moi, je n'ai pas l'intention de parler autre chose que des réformes que je préconise pour notre pays. Lorsque je dis il faut tout changer, encore une fois, ça n'est pas... Au moment où nous sommes dans cette tourmente,
qu'on va en parler.
Si nous
Je
sommes
promets.
Dans cette situation aujourd'hui, c'est parce que depuis 20 ans, on n'a pas voulu changer les choses. Que ce soit à gauche ou que ce soit à droite.
D'ailleurs, vous critiquez Chirac. Vous dites dans votre livre, il avait un boulevard Chirac, il pouvait réformer, il ne l'a pas fait.
Mais bien évidemment. Bien évidemment.
Et Sarkozy, vous allez me répondre qu'il a eu la crise.
Il s'est laissé enfermer dans, je dirais, ce conservatisme de droite, comme d'autres se sont laissés enfermer dans les conservatismes de gauche. Au fond, à quoi sommes-nous confrontés dans notre pays ? Une espèce d'aristocratie qui se prend pour une élite.
Là, on rentre dans le dur, j'allais dire, de votre livre.
Qui n'est pas une aristocratie du sang,
ni
une aristocratie du mérite, qui est une aristocratie académique, qui est une aristocratie du mérite.
Je vous promets que tout cela, on va en parler, mais je sens que Frédéric veut solder cette affaire Fillon.
Je
le sens impatient. Donc,
parce qu'au fond, vous dites, l'important, c'est le projet, c'est les réformes.
Mais est-ce que vous imaginez un seul instant que c'est moi, ce soir,
laissez-moi poser la question, vous verrez.
Qui solderait l'affaire Fillon.
Non, bien sûr
ne
que non.
Ne comptez pas
solder
sur moi.
Solder entre nous, je veux dire.
Je suis loyal à ma famille politique. Oui. J'ai dit que je n'étais pas filloniste, mais que je resterai loyal à ma famille politique. Donc, il n'est pas
vous
question.
Dites, Christian Estrosi, vous dites la
que
question, c'est le projet,
qui
c'est les réformes. Et vous avez dit, nous sommes sans doute la famille politique qui a le plus de personnalités, qui serait peut-être en mesure, aujourd'hui, de porter ces réformes. Précisément, un projet présidentiel, il faut bien quelqu'un pour l'incarner, pour le porter. Donc, la question, c'est de savoir si, oui ou non, François Fillon est présomptueux quand il dit « je suis le seul à pouvoir le faire ». Vous, par exemple, à Nice, qu'est-ce qu'ils vous disent, les Niçois ?
Ça n'est pas à moi de le juger.
Non, mais les Niçois, ils vous disent quoi ? Ils vous disent « c'est plus possible, on en a marre, trouvez quelqu'un d'autre » ou ils vous disent « Fillon est formidable ».
Les Niçois me disent qu'ils sont très heureux de la manière dont j'administre leur vie.
Ils ne vous parlent de rien d'autre. Ils sont magnétisés.
Je ne sais pas combien de temps il nous reste, peut-être si on a le temps. Vous avez été le premier à critiquer François Fillon, en tout cas son programme. Hein. Vous revendiquez, vous, en tant que gaulliste social, mais c'est bien ce qu'on disait, il me semble, de François Fillon lorsqu'il était séguiniste du côté de Philippe Séguin. Est-ce qu'il aurait muté comme ça d'un seul coup de gaulliste social en thatchérien ?
Vous voulez absolument me faire parler de François Fillon et moi je voudrais vous parler de mes idées pour la France.
Mais alors voulez être candidat à l'élection présidentielle.
Oui, bah alors dites-le. Si vous avez un projet, on parle de votre. Vous nous le dites, on fera un scoop. Hein.
Non, mais je vais vous dire autre chose très sérieusement. Il y a un peu plus d'un an, vous le savez, pendant un temps, vous m'aviez invité d'ailleurs. J'étais candidat aux primaires.
Oui. Et puis finalement.
Et puis il se trouve que des indications ont démontré que, dans ma région, une Le Pen pouvait l'emporter. Et que l'ensemble des forces de ma région, de ma famille politique, m'ont demandé de mener ce combat, estimant que j'étais sans doute le seul à pouvoir empêcher cette élection. Ça a été une période très difficile. J'y ai sacrifié toute mon énergie. On m'a même donné perdant dans les sondages pendant près de 4 mois.
Vous avez été élu grâce aux voix de gauche.
Ouais. Oui, enfin j'ai été élu.
Oui.
J'ai été élu.
Parce que le Front républicain a fonctionné.
Et si vous pouvez m'expliquer ce qui se passera au deuxième tour des élections présidentielles, si c'est pas la même configuration que celle que j'ai eue en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, eh bien expliquez-moi le contraire. Ça sera exactement la même configuration. Ouais. Tout le monde sait aujourd'hui que Marine Le Pen sera présente au deuxième tour. Et tout comme Monsieur Cambadélis, je fais la même analyse. Tout ce qui se passe aujourd'hui fait monter le Front national.
J'entends bien. Mais ce que je pourrais vous rétorquer, c'est que pour les départementales, je pourrais vous rétorquer que lors des départementales ou des régionales, le Front national était au second tour. Et entre les deux tours, les Français ont corrigé leur vote. C'est-à-dire qu'on promettait au Front national des dizaines de régions, ou des dizaines de départements, ou des vingtaines de départements. Ça ne s'est pas passé.
Nous avons
Parce que les Français ont corrigé leur vote.
D'avoir deux Le Pen d'élus. Une au nord, face à Xavier Bertrand, et une au sud, face à moi. Avec Xavier Bertrand, parce que nous avons choisi exclusivement de nous engager dans ce combat, et de dire que nous ne nous disperserions pas sur les primaires. Nous avons sans doute évité le pire, car vous ne commenteriez pas aujourd'hui l'actualité politique de la même manière s'il y avait eu une Le Pen présidente au nord ou au sud d'une grande région de France. Et je pense que vous en êtes consciente.
C'est quand même les Français qui ont voté.
Ce sont les Français qui ont voté. Et je pense que ces Français qui ont voté, ce sont les mêmes qui voteront. Et nous sommes sans doute les mieux placés, et par l'expérience qui est la mienne et pour m'en entretenir avec Xavier Bertrand, et dans les échanges que nous avons, nous mesurons que ce qui a menacé ces deux grandes régions est ce qui menace la France aujourd'hui. Et plus on entretient le climat qu'on entretient aujourd'hui, plus on nourrit quoi ? Ceux qui, aujourd'hui, sont sans doute les moins vertueux dans la vie politique française. Parce que de ça, on n'en parle pas. Mais je pensais que Marine Le Pen, en venant hier à Nice, il venait pour répondre à la convocation d'un juge d'instruction. Il a déjà convoqué par 3 ou 4 occasions et elle ne s'y présente jamais. Non, elle est venue pour faire un numéro sur la promenade des Anglais, là où nous avons connu une tragédie épouvantable le 14 juillet dernier, avec des hommes, des femmes, des enfants de toutes confessions, de toutes origines, qui ont péri sous la main d'épouvantables barbares et de ce djihadisme islamiste insupportable. Elle est venue nourrir son message. Qui n'a trompé personne parce que venir 8 mois après sur la promenade des Anglais,
légitime de son
point de vue. Oui, mais enfin, je n'ai vu personne rappeler à cette occasion qu'étant à Nice, elle n'a jamais répondu à une convocation qui lui vaut aujourd'hui une demande de levée d'immunité parlementaire devant le Parlement européen.
On marque une pause, Christian Estrosi. On se retrouve dans 5 minutes. On fait un tour d'horizon de l'actualité. On attendra tout de suite.
RFI et France 24 présentent
Mardi politique.
Retour dans Mardi politique avec Frédéric Rivière et notre invité donc Christian Estrosi, président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc on a évoqué l'affaire Fillon, on en était resté à Marine Le Pen. Vous disiez dans le fond qu'elle était forcément présente au second tour, mais beaucoup disent dans le fond elle peut ce plafond des 50% qu'elle n'arrivera pas à percer. Et je vous rappelais il y a quelques instants qu'effectivement pendant les départementales ou les régionales on s'imaginait le Front National avec des dizaines de régions ou de départements, il n'en a rien été. Est-ce que vous pensez que ce plafond de verre dont on parle, ce plafond des 50%, Marine Le Pen peut le dépasser aujourd'hui?
Bon,
ou on s'amuse à se faire peur une
d'abord
fois.
Je vous rappelle qu'il a fallu mon engagement personnel pendant 6 mois. Je n'étais pas forcément destiné à m'engager aux élections régionales, que peut-être un candidat
là, je parle de la présidentielle.
Qui a un peu moins de notoriété face à elle aurait pu perdre dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, comme si Xavier Bertrand ne s'était pas engagé lui-même en mettant toutes ses forces dans la bataille. Je l'ai dit,
vous
mais je
dit.
Le redis. Et pour avoir vécu cela, je n'écarte pas que le climat dans lequel nous vivons aujourd'hui permette, parce que des électeurs sont excédés aujourd'hui, parce qu'ils en ont assez de vivre...
Excédés
dans...
par quoi par,
par cette espèce de rejet d'une vie politique où ils ont l'impression qu'elle n'apporte plus d'espérance aux Français. Ce sont les rejetés de la mondialisation, ceux qui sont sur le bord du chemin... plus d'un million de chômeurs de
Marine
plus.
Marine Le Pen, elle parle à ces gens-là.
Mais nous parlons à ces gens-là, si ce n'est que
oui, mais elle
le climat. La seule différence, c'est qu'elle n'apporte pas de solution.
Elle n'a jamais été
Expliquez-moi.
Au pouvoir.
Expliquez-moi.
Mais c'est-à-dire, vous parlez d'espérance, mais les gens, au fond, c'est pas tant de l'espérance que des résultats qu'ils veulent, quand même.
Le problème, c'est que lorsque l'on parle, par exemple, d'un programme économique et politique et surtout monétaire, aussi extravagant que celui du Front National. Quand on passe qu'aujourd'hui, nous sommes à 6300 milliards de dettes extérieures en France, et que la seule dévaluation que provoquerait un retour au franc amplifierait cette dette par plus de 50%, avec des conséquences que personne ne peut imaginer sur la vie quotidienne des Français, sur le fait même qu'ils pourraient ne plus retirer sur leur compte en banque ce qu'ils ont pu placer comme épargne, et que personne n'attire l'attention des Français là-dessus, qu'elle se place au-dessus de la justice.
Oui, comment vous expliquez que les affaires ne la poursuivent pas, mais, comme Fillon, par exemple, votre camp
Mais tout glisse.
Pourquoi elle y échappe ?
Madame Le Pen se voit réclamer par le Parlement européen pour des emplois d'attaché parlementaire fictifs.
Elle fait un bras d'honneur, et personne...
Elle dit « Allez vous faire voir ». Et puis vous avez des gens qui disent « Elle a raison de dire « Allez vous faire voir ». Il y a
fond,
des
vous
moments
êtes en
où je me demande si François Fillon ne devrait pas faire pratiquer de la même manière. Après tout, c'est un truc qui marche bien.
La différence, c'est que Marine Le Pen, elle marche sur l'eau.
Je ne peux l'accepter ni pour l'un, ni pour l'autre. Simplement, si nous avions édicté des règles qui soient au Parlement français, les mêmes règles que le Parlement européen, sur le contrôle des personnes qui sont embauchées, qui sont engagées, qui sont à votre service, peut-être que ça nous éviterait bien des déboires. Lorsque Madame Le Pen ne répond pas à un juge d'instruction, je l'ai dit tout à l'heure, et quel est le Français qui pourrait ne pas répondre à un juge d'instruction sans prendre le risque d'avoir de lourdes sanctions demain? On dirait qu'elle est au-dessus de tout cela. Je ne peux pas continuer à l'accepter. Lorsque Madame Le Pen propose que nous allions à la retraite à 60 ans, alors que nous savons que nous avons un déséquilibre où la retraite par répartition ne pourra pas garantir dans 5 ou 6 ans de cela à tous les pensionnés de pouvoir toucher justement leur pension. Mm-hmm. Mais qui peut encore faire confiance à un programme comme celui-là?
Alors, Christian
Et pourtant,
Estrosi,
ça passe.
Christian Estrosi,
voilà pourquoi mon devoir est de m'engager.
Mais comment
dans
vous expliquez tout ça? Comment vous expliquez tout ça? Elle hypnotise les journalistes et les Français,
elle
les
parle
ses sympathisants?
Des Français, ouais.
Non, j'explique tout ça parce que nous n'avons pas su nous réformer et que les gens ne votent pas par adhésion, ils votent par rejet. C'est la candidate qui sert de rejet. on se dit, tiens, non, on a ça, une possibilité.
Cette explication-là, elle valait il y a quelques années, oui. quand ils faisaient 7, 8, 9%. Mais quand ils sont dans des scores comme aux européennes, c'est pas crédible.
Quand on est confronté au terrorisme comme nous le sommes, et que nous ne faisons pas les réformes nécessaires, dans un esprit quelquefois d'unité nationale d'ailleurs, quand nous sommes confrontés à un code du travail de je ne sais combien de centaines de pages qui aujourd'hui paralysent toute notre activité, quand on voit qu'un jeune ou deux jeunes qui montent une start-up et qui, dès la première année, voudraient réinjecter la totalité de leurs dividendes, se voient prélever par le fisc, ce qui n'est pas le cas à Londres, mais qui est le cas en France, 30% de ces dividendes, plutôt que de leur laisser réinjecter à 100% dessus, ce qui provoque forcément que ceux-ci partent développer leur projet d'innovation à l'extérieur de nos frontières. Ce sont autant de sujets aujourd'hui qui exigent que la France se réforme. Et qu'est-ce qui fait que la France ne se réforme pas? Pardon, Roselyne Fèvre. Ouais. C'est que vous avez cette espèce de caste, d'élite, de messieurs pépis qui, sous un gouvernement de droite, président de la SNCF, sont au-dessus des ministres des transports, c'est-à-dire au-dessus des choix faits par les Français aux élections, au-dessus d'un président de région qui pourtant se voit confier par la loi l'autorité organisatrice des transports ferroviaires régionaux dans sa région et qui doit endurer 90 jours de grève avec des usagers pris en otage tous les jours, que vous avez un monsieur Schramek qui il y a 20 ans était secrétaire général du Conseil constitutionnel, puis directeur de cabinet du Premier ministre et puis président je ne sais quoi, pour être aujourd'hui président du CSA, et qui, ensemble, dans l'entre-soi, font en sorte, quel que soit le choix des Français, que rien ne change. Eh bien, il est temps que tout ça change.
Vous en rendez compte aujourd'hui?
Non, ça fait des années que je m'en rends compte. Ça fait des années que je suis confronté à ces blocages. Mais il y a une différence avec certains de ceux qui parlent au Parlement, qui déposent des amendements, qui sont toujours dans le commentaire. Moi, je ne suis pas dans le commentaire de tous ces intellectuels, de tous ces économistes qui se trompent toujours. Moi, je suis dans l'action. Moi, je construis des lignes de tramway. Moi, je livre des universités. Je livre des hôpitaux. Je bâtis l'avenir d'un territoire. Je fais et j'arrive à être dans des rapports de force énormes avec des contre-pouvoirs qui essaient de m'empêcher d'agir. Et donc, je mesure à quel point tous ces contre-pouvoirs que j'arrive à casser au plan local doivent être cassés à l'avenir, pour l'avenir national de notre pays et redonner de l'espoir aux Français.
Ouais.
On parle d'un mot des banlieues, parce qu'au fond, tout ça, c'est votre livre, et on vous a dit qu'on allait y venir.
Et c'est une bonne illustration, les banlieues.
Ce qui se passe aujourd'hui dans les banlieues, depuis l'arrestation violente et assez terrible du jeune Théo à Aulnay-sous-Bois, des émeutes se produisent presque quotidiennement dans un certain nombre de villes. On va d'ailleurs écouter François Hollande, qui s'est rendu aujourd'hui à Aubervilliers et qui s'est adressé aux jeunes dans cette
période. Sur la formation, c'était sur le travail.
Mais au départ, c'était sur l'emploi, mais enfin, bon. On l'écoute et puis on y revient.
Il n'y a pas de vie en commun s'il n'y a pas de respect. Le respect, c'est celui qui est dû à ces jeunes quand ils sont contrôlés, lorsqu'ils sont eux-mêmes confrontés à des situations de violence. Respect. Et je refuserai aussi toutes les provocations. Tous ceux qui veulent diviser, qui veulent séparer, qui veulent opposer, qui veulent briser ce qui est la vie en commun. Nous avons besoin d'être ensemble.
Est-ce que les mots du président de la République là sont pour vous ceux que vous attendiez? Est-ce qu'ils sont à la hauteur de ce qui est en train de se passer dans les banlieues?
Bon, allez, que le président de la République aille visiter Théo, c'est l'État qui est allé rendre visite à Théo.
Et ça, c'était il y a quelques jours.
Et nous nous sommes tous retrouvés, en tout cas, moi je me suis reconnu derrière le président de la République, ce garçon qui a souffert dans sa chair et dans sa propre identité, sa propre personnalité, le martyr. C'est normal. Mais que le chef de l'État, à la tête du gouvernement français malgré tout, ait accepté qu'il y ait des manifestations alors que nous sommes en état d'urgence, que nous sommes dans un plan vigipirate avancé, c'est anormal. Nous savons aujourd'hui que...
C'est les dictatures qui empêchent les manifestations, Christian Estrosi, tout de même.
Alors, est-ce que l'état d'urgence a encore un sens quand on est en guerre?
Non, mais interdire une
est-ce
manifestation...
Est-ce que quand on est en guerre... Oui, mais vous ne pensez pas que nos policiers... Nos militaires, nos services de renseignement doivent être mobilisés contre tous ceux qui, comme la semaine dernière, ont risqué de commettre un attentat à Montpellier.
Donc vous auriez interdit
ces manifs. Mais je l'aurais interdit. Et nous savons que dans toute manifestation, s'il y a 95% de gens qui manifestent pacifiquement, il y a malheureusement ceux qui cassent, ceux qui brûlent, ceux qui ont même brûlé la voiture de certains de vos confrères, celle d'RTL. Est-ce qu'on peut accepter ça? En même temps, je n'ai pas vu de manifestation aussi importante derrière nos policiers lorsque certains ont envoyé un cocktail Molotov dans une voiture de police avec deux blessés extrêmement graves. La police mérite d'être respectée tout autant. S'il y a trois individus qui ont fauté dans la police, les juges diront ce qu'ils ont à dire et sanctionneront ce qu'ils ont à sanctionner. Mais quand on voit combien nos policiers sont confrontés aujourd'hui à une situation si difficile, ils ont besoin aussi d'être encouragés. Ils sont aimés par les Français. Les Français savent qu'ils les protègent. Et mon devoir, c'est aussi de dire cela. Et le problème des banlieues, c'est pas d'être dans l'immédiateté, de dire à chaque fois, allez, respect, et puis on a oublié la police de proximité, et puis chacun a son bon mot le jour où il y a un problème. Mais pourquoi il y a un problème? Alors qu'il y avait des solutions pour qu'il n'y ait plus de problème. Jean-Louis Borloo, il y a quelques années de cela, a bâti l'Agence nationale pour la rénovation urbaine. Nous voyons que dans tous les quartiers de France, où les élus locaux ont fait usage de la rénovation urbaine, comme je l'ai fait dans ma ville, 750 millions d'euros, certes, c'est un choix budgétaire que j'ai fait sur trois grandes cités. Oui. Casser des tours, apporter de la mixité, apporter des équipements publics, apporter des entreprises, de l'emploi, de la formation pour tous ces jeunes. Eh bien, nous voyons qu'il n'y a pas de problème. Et là où il y a des problèmes, c'est là où ce travail n'a pas été fait durablement au cours des 20 dernières années.
On va passer quand même, on est un peu arrivé dans le désordre, mais c'est pas grave, hein. On suit finalement votre fil conducteur, mais nous voulions parler de votre livre, et de cette fameuse bourgeoisie d'État.
Vous ne m'inviterez plus.
Mais pas du tout, vous revenez quand vous voulez. Mais je voudrais quand même vous interroger sur François Fillon, mais sur le fond cette fois, puisque je vous le disais tout à l'heure, vous aviez été un des premiers, vous avez appelé déjà les frondeurs des Républicains, pour qu'il amende, pour qu'il réajuste son programme que vous trouvez trop dur et trop brutal. Et ce week-end, François Fillon était en déplacement sur l'île de la Réunion et il a affirmé que tant que la situation de l'emploi là-bas ne sera pas meilleure et le chômage aussi critique, eh bien, les Outre-mer ne seraient pas concernés par le plan de réduction de fonctionnaires. Or, on le sait, il veut supprimer 500 000 fonctionnaires et son argument massue, c'était le chômage doit appeler des réformes et des sacrifices. Et là, on comprend pas trop, l'outre-mer ne serait pas concerné. Vous voyez, il y a deux poids, deux mesures, on comprend pas bien. On croyait que François Fillon était un austère et finalement il l'est pas pour lui. Est-ce qu'il y a de la cohérence dans tout cela?
Globalement, il faut le dire, François Fillon, au sort de sa victoire aux élections primaires, a dit « Mon projet, ce sera celui des primaires ». J'ai fait partie de ceux qui ont considéré que, bien évidemment, je voulais loyalement lui apporter mon soutien, mais je demandais qu'un certain nombre de points soient amendés, que parler de dimension sociale…
Mais là, je vous pose une question précise.
Oui, mais ça en fait partie. Écoutez,
comment on peut avoir discours
j'ai été ministre
à deux endroits différents?
J'ai été ministre de l'Outre-mer, je connais bien la situation de la Réunion, mais aussi de la Caraïbe notamment… Ou de la Guyane et qui sont des situations où la formation, l'emploi des jeunes sont encore plus précaires qu'ailleurs. Bon. Pour autant, y compris en métropole, nous savons très bien qu'annoncer 500 000 suppressions de fonctionnaires, que ce soit à La Réunion, que ce soit en métropole,
je suis
moi-même en train de recruter 130 policiers municipaux de plus. Personne ne m'expliquera demain qu'il faut supprimer des postes de policiers, de fonctionnaires, de collectivités territoriales dont nous avons besoin. Et je sens que, tout doucement, François Fillon, avec une certaine sagesse, est en train d'amender une part de ce problème. Sur la dimension
sociale. La prise en compte des observations qui se font.
Le discours de la Villette de François Fillon avait déjà beaucoup amendé le volet social et le discours que nous nous devions d'adresser aux classes moyennes. Nous voyons donc que nous sommes rentrés dans la réalité du débat de l'élection présidentielle et plus des primaires, et que forcément il y a des réalités à prendre en compte, et que il reste encore des volets sur la fiscalité, où je souhaite d'ailleurs être entendu. Je pense qu'aujourd'hui, redonner du pouvoir d'achat aux Français, c'est baisser l'impôt sur le revenu dans des proportions suffisamment conséquentes, c'est aujourd'hui baisser les charges sur les entreprises de manière suffisamment conséquente, et sans doute pas augmenter la TVA, dont nous avons vu les conséquences d'ailleurs entre deux tours des législatives, rappelez-vous-en, en 2007, et dont nous avons vu les conséquences chaque fois qu'on a procédé par ce moyen, puisque ça touche au pouvoir d'achat de tous les Français.
Alors, Christian Estrosi, vous allez être content. On va rester sur votre livre maintenant, jusqu'à la fin de cette émission. Votre livre qui s'appelle « Il faut tout changer » et dans lequel vous dénoncez, je vous cite, hein, cette aristocratie qui s'est accaparée la démocratie, planquée derrière ses conservatismes pour que perdure l'entre-soi. J'ai presque envie de vous dire, sortez de ce corps, Jean-Luc Mélenchon.
Pourquoi?
Bah, tout simplement en raison de la citation que je viens de faire.
Mais vous ne croyez
pas. Il faut tout changer, ça rappelle.
C'est l'antisystème.
Il faut tous les virer.
L'antisystème.
Et l'entre-soi et la préservation de ces petits privilèges, de ces petits avantages. C'est au fond un peu vous êtes un peu dégagiste.
C'est anti-élite.
Est-ce que vous savez que lorsque. Allez, nous gagnons les présidentielles. Nous gagnons les élections parlementaires. Nous mettons en place un nouveau gouvernement. Est-ce que vous savez que le prochain ministre de Bercy sera obligé de faire avec la haute hiérarchie qui, pendant 5 ans, a mené la politique des socialistes ? Parce que cette fonction publique est immuable.
Oui. Eh
bien, il faut casser tout cela. Il faut mettre en place un spoil système qui permette, lorsqu'on arrive au pouvoir, de pouvoir mettre les gens qui vont vous accompagner dans les jours qui suivent, dans les heures qui suivent, les réformes pour lesquelles vous avez été élu.
Faire des shadow cabinets.
Les Français n'arrivent pas à comprendre pourquoi, chaque fois que nous sommes élus, nous ne respectons pas la parole donnée, qu'elle ne se transforme pas en parole tenue. Eh bien, tout simplement parce qu'il y a cet entre-soi où tous ces gens-là, qui ont des carrières de garantie pour 40 ans, se protègent sur le dos de l'exercice de la démocratie et du choix des Français. Et il faut casser impérativement cela. Mais comment est-il possible, lorsque je suis élu président de la région, doive supporter un directeur de Pôle emploi dirigé par le ministre de l'Emploi, alors qu'une de mes compétences, c'est celle de l'emploi et de la formation? Comment est-il possible qu'on ne comprenne plus rien dans l'éducation nationale entre celui qui est ministre de l'éducation, celui qui est en charge au niveau de la région les lycées, celui qui est en charge au niveau des départements les collèges, celui qui est en charge l'école primaire ou l'école maternelle au niveau de la collectivité communale? Il faut un interlocuteur identifié pour que les Français sachent à qui s'adresser.
Alors, vous dénoncez tout ça aujourd'hui, vous n'avez pas totalement tort, mais dans votre livre, il y a un passage qui s'appelle Sarkozy. J'ai été Sarkozy, je reste. Cependant, tout ce que vous décrivez là, le système Sarkozy, c'était ça. Rappelez-vous, je ne vais pas vous rappeler l'affaire de l'EHPAD, où Nicolas Sarkozy avait déclenché un tollé parce qu'il voulait mettre son propre fils à la tête de cet établissement public.
Moi, je veux...
Ah oui, mais attendez. Soit vous dites, on veut plus de cette vieille politique.
Je vous écoute, je répondrai.
Voilà.
Et avec beaucoup de transparence.
Est-ce que vous n'êtes pas un peu dans vos propres contradictions? Je reste Sarkozy, j'ai de l'amitié. Pour moi, c'est l'homme qui a le plus compté en politique.
Ça n'est ni un problème.
Et c'était un système, le système Sarkozy.
Je suis gaulliste. Et je ne me réfère à personne d'autre sur ma vision d'avenir de notre pays. Et la place qu'elle doit occuper sur la scène internationale. Mais... si je vous pose la question de savoir qui préside l'Union européenne aujourd'hui.
Attends, vous changez de sujet là.
Mais non, je ne change pas de sujet. Le seul nom qu'on ait en mémoire qui ait présidé l'Union européenne ces dernières années, c'est le nom de Nicolas Sarkozy, qui avait réussi à tenir tête au président des États-Unis, au président de la Russie, à éviter un bain de sang en Géorgie. Ouais. C'était une méthode où la France avait retrouvé sa place sur la scène internationale.
Vous faites de la vieille politique en me faisant de la langue de bois, Christian.
Je ne fais pas de la langue de bois. Je parle d'une méthode de gouvernance, pas d'un système. D'une méthode de gouvernance, pas d'un système. Lorsqu'il a fallu, et j'étais le ministre de l'Industrie de l'époque, sauver Peugeot, Citroën, Renault, vous savez qu'ils allaient disparaître alors que nous sommes le pays fondateur de l'industrie automobile. Et c'est celui qui vient de démontrer, là où depuis 10 ans n'était plus capable d'accueillir un Grand Prix de Formule 1 en France, que c'est sous ma présidence en région Provence-Alpes-Côte d'Azur que nous ramènerons en 2018 l'organisation d'un Grand Prix de France qui est l'épreuve sportive la plus regardée par des centaines de millions de téléspectateurs dans le monde. Eh bien, nous avons réussi en quelques jours seulement à sauver l'industrie automobile française. Avec la prime à la casse, avec le triplement du crédit impôt recherche.
C'est formidable. Christian Sosie, il y a une différence entre vous et nous, c'est que vous n'avez pas d'oreillette.
C'est une méthode
et que vous n'entendez pas qu'on nous dit que c'est terminé, que l'émission est finie. On peut retrouver tout ce dont vous parlez dans votre bouquin.
Oui. Bien sûr.
Hein. Et Mardi Politique, on peut le retrouver mardi prochain.
Bah oui, hein. Et surtout sur voilà, France24.com et RFI d'ailleurs.
Exactement.
Donc merci, donc il faut tout changer aux éditions Alpes.